Salutations à toutes et à tous. Je suis très heureux de pouvoir venir à nouveau parmi vous et de voir comment l'Église prospère sous le regard du Seigneur. Je ne vous cacherai pas que je suis venu cette fois-ci un petit peu à reculons parce que ma belle-sœur m'avait engagé dans une course à pied hier, 10 km, et je vous garantis que j'avais l'idée de venir pour porter la parole. Je me sentais plus à l'aise, mais courir, ça faisait longtemps. Et voilà, on a bien survécu. Hein. J'ai pensé pendant tout ce footing à ces versets de la parole de Dieu qui dit « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur vol, hein, leur envol comme des aigles. » Là, ça a été plutôt comme un caillou, vous savez, ce sujet tout ça. Et puis, ils courent et ne se lassent point. Hein, et là, je me suis lassé, malheureusement. Mais ils marchent et ne se fatiguent point. Je me suis dit, il ne me restait plus que cette partie. Et j'ai marché jusqu'à la fin. Et voilà, par la grâce de Dieu, il ne fallait pas abandonner. C'est pareil dans la vie chrétienne. On a une course avec le Seigneur. Et il ne faut pas abandonner sa course avec le Seigneur Jésus. Et ce matin, j'aimerais, si vous le voulez bien, parler d'un serviteur de Dieu qui a été à la peine dans sa vie chrétienne, qui, comment dirais-je, a connu une chute, mais aussi un relèvement par la grâce de Dieu. Et pour cela, je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 21. Dans ce chapitre 21, il est question des apôtres du Seigneur Jésus qui vont rencontrer ce même Seigneur sous un jour nouveau. Il est maintenant le ressuscité. Et il est écrit : Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon Pierre leur dit « Je vais pêcher » et lui dirent « Nous allons aussi avec toi ». Ils sortirent et montèrent dans une barque et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils leur répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc. Et ils ne purent plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur !» Et Simon Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement à sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car il n'était éloigné de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là les charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Simon Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il y en ait tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, « Venez, mangez. » Et aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu ?» sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain, le leur en donna, il fit de même du poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Prions Dieu. Notre Dieu, notre Père, nous voulons encore te louer, te bénir pour ta parole qui est la vérité, qui est là pour nous instruire, qui est la nourriture de notre âme, et nous te prions qu'elle fasse son effet à l'appui de ton Saint-Esprit que tu as déversé dans nos cœurs, par lequel tu nous cherches et par lequel tu nous invites à fixer nos pensées sur la personne de ton Fils Jésus-Christ. Et combien je te prie de m'accorder toute l'assistance de ton Esprit Saint afin que je puisse parler, afin que ton nom soit glorifié dans chaque cœur ce matin. Tout cela, nous te le demandons dans le beau nom du Seigneur Jésus. Amen. Voilà, nous avons lu un peu ce texte qui nous parle de ses disciples après la résurrection de Jésus-Christ. Et il est question de l'un d'entre eux en particulier, Simon-Pierre. Simon-Pierre qui est à la peine dans sa vie chrétienne. Comme vous le savez, il a renié 3 fois le Seigneur Jésus, il a nié de le connaître. Et en réalité, depuis ce moment, eh bien, les choses ne vont pas bien dans sa vie. Ça tourne mal. Même s'il ne fait pas de choses catastrophiques à vue humaine, c'est dans son cœur que le combat, eh bien, est livré, c'est dans son cœur que ça va mal. Et pourquoi ça va mal? Parce que, eh bien, finalement, ce lien si précieux, qui est celui de la communion avec le Seigneur, a été rompu. Il n'est plus en phase avec son Dieu. Et dans ce texte, nous voyons quelque chose de merveilleux. Nous voyons que le Seigneur Jésus va à la rencontre du pécheur. Il va à la rencontre de celui qui s'est égaré. Il va à la rencontre de celui qui s'est fourvoyé. Celui qui n'a plus son cœur dans les choses de Dieu. Il aime aller à sa rencontre et il aime à le restaurer. Aussi ce matin, si vous me le permettez, j'aimerais voir brièvement eh bien quelle fut la chute de l'apôtre Pierre, quel fut aussi son égarement, mais plus encore, quelle est la restauration que le Seigneur veut lui accorder. Sa chute, la chute de Pierre. Comment chute-t-on? Vous avez jamais, en circulant en voiture, vu ce panneau triangulaire, c'est marqué « chute de pierre hein ». Voilà. Mais écoutez, « chute de pierre », ici, dans notre texte, il n'est pas question de chute de pierre, mais il y a toujours des circonstances assez semblables quand il est question d'une chute. Nous avons Pierre qui, au soir de l'arrestation du Seigneur Jésus, s'est confié en lui-même plutôt que dans son Seigneur. C'est lui qui disait « Je suis prêt à aller avec toi en prison et jusqu'à la mort ». Et qu'est-ce qui lui permettait de dire cela? Ce n'était pas le fait qu'il trouvait en lui le ressort de la grâce pour pouvoir le dire, c'est qu'il se confiait en lui-même. Mais vous savez que dans le livre de Jérémie, il est écrit « Maudit soit celui qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour appui ». Et voyez-vous, l'apôtre Pierre est tombé sous cette malédiction qui consiste à regarder à soi, à son nombril, et à se dire « je suis capable par moi-même ». Et quand on prétend être capable par soi-même de suivre le Seigneur, eh bien je vous garantis que c'est finalement le commencement de la fin. Il n'a même pas écouter les avertissements du Seigneur qui lui disait « Mais je te le dis même, cette nuit même, le coq n'aura pas chanté 2 fois, que tu auras renié 3 fois de me connaître. » Il n'a pas écouté cette parole du Seigneur, tellement il était centré sur lui-même et sur sa propre capacité. Et puis, on voit dans l'évangile de Matthieu, bien que, plutôt que de prier son Dieu, il va dormir. Vous n'avez pas su veiller avec moi 1 heure, le Seigneur leur dira. Et puis par la suite, au moment de l'arrestation du Seigneur, il est écrit qu'il suit de loin. Il suit, mais il suit de loin. Et puis voilà qu'il se retrouve avec coin du feu, avec des hommes et des femmes. Et là, il est dénoncé comme un disciple et il finit par renier son Seigneur, et avec imprécation, c'est-à-dire avec violence. Il y a même un crescendo, hein, comme on dit en musique, dans ce reniement, 1 fois, 2 fois, 3 fois, et après il finit par pleurer amèrement. Alors ici, finalement, nous avons le résumé, j'oserais dire, de toute chute spirituelle. On se confie en soi, on se croit suffisant, on perd ce lien de prière avec le Seigneur, on pense connaître la parole de Dieu, du sorte que finalement on ne l'entend plus, on ne l'écoute plus. Hein, vous savez, prenez votre Bible, ça glisse, vous ne voyez plus, le Seigneur veut vous dire quelque chose, mais vous ne le voyez même plus. Et puis, vous êtes plus un acteur dans l'œuvre de Dieu, vous êtes un spectateur, quelqu'un qui suit de loin. Je suis toujours là, voilà, mais de loin, plus investi, mais spectateur. Et la chute est inévitable. Alors, on voit que Pierre s'est retrouvé dans un état de grande misère. Et quand il a renié trois fois son maître, vous pouvez penser qu'il a pleuré amèrement. Pourquoi ? Parce qu'en pleurant amèrement, pour lui, il savait ce que ça signifiait, ce reniement. Ça voulait dire tout simplement que son ministère, son service dans l'œuvre de Dieu, c'était terminé. C'était terminé. Et c'était pas simplement un reniement, mais c'était presque tout un avenir qu'il avait placé dans son Dieu qui s'arrêtait à ce moment-là. Il était ruiné spirituellement. Alors, on le retrouve ici au chapitre 21, et il est dans un état d'errement. Et peut-être que c'est aussi votre cas ce matin, et vous ne savez plus comment conduire votre vie, et peut-être que dans votre âme, vous errez, plus que, je dirais, dans les faits. Que faire quand on est un petit peu à l'abandon spirituellement? Ici, dans ce texte, eh bien, Pierre sait que Jésus-Christ est ressuscité des morts. Après la mort de Christ, il savait qu'il ne pourrait plus jamais se tourner vers lui pour pouvoir lui parler, lui exprimer sa repentance parce qu'il est mort. Mais maintenant qu'il est ressuscité, eh bien, on se rend compte que ça ne change rien du tout. Tu sais, Jésus est ressuscité. Ah ouais? Ouais, c'est bien. Mais ça ne change rien. Et la bonne nouvelle n'a aucun impact dans sa vie. Qu'est-ce que tu fais avec cette résurrection de Christ qui t'ouvre à nouveau un espace pour ta vie? Rien. Je vais à la pêche. Que fait Pierre en réalité? Pour lui, comme le ministère, le service est terminé, eh bien il retourne en fait à ses anciennes habitudes. Et peut-être que vous en êtes là ce matin. Vous retournez à ce que vous aviez cessé. Il retourne à la pêche. Et figurez-vous qu'il n'est pas allé à la pêche depuis cette pêche miraculeuse où il était avec le Seigneur et le Seigneur lui a dit de jeter ses filets et qu'il a ramassé une foule de poissons et même le filet craqué. Et après ça, le Seigneur lui a dit « Suivez-moi et je vous ferai pêcheur d'hommes ». Et depuis, il a suivi son Seigneur, il ne peut jamais retourner à la pêche. Et donc, pêcheur d'hommes, non, bon, on va revenir à la pêche aux poissons, hein, et c'est ce qu'il me faut pour moi. Et donc, ici, quand on est loin du Seigneur, on a toujours de bonnes raisons, j'oserais dire, de prendre le chemin de son ancienne vie. Ces bonnes raisons, c'est qu'on se dit, de toute façon, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. Puis, de toute façon, j'ai aussi une famille à nourrir, hein, une responsabilité. Et puis, bon, j'en ai fini de rêver. Hein, vous savez, la vie idéale, spirituelle, les sommets. Oh, non, ça y est, j'ai compris. Hein, là, j'ai fini de rêver. Pierre en est là. Il retourne à son ancienne vie. Et figurez-vous qu'en retournant à son ancienne vie, ben, il emmène avec lui quelques disciples. Je vais pêcher. Il dit, oh ben oui. Finalement, on va t'accompagner, parce que finalement, les autres disciples sont un peu dans ce même état d'esprit d'abandon du Seigneur, le filet coupé. Mais c'est étonnant qu'aucun d'entre eux n'ait pu dire, mais au fait, peut-être qu'avant d'aller à la pêche, on pourrait peut-être demander au Seigneur, aller au-devant de lui pour savoir ce qu'il attend de nous. Non, aucun d'entre eux ne cherche à savoir quelle est la volonté de Dieu pour lui. Pourquoi ? Parce que le filet coupé. La communion n'est plus. Alors la chose, c'est qu'on a toujours l'impression de moins pécher, vous savez, quand on le fait ensemble, hein, quand on est plusieurs. Hein, parce que finalement, on se dit, bah ouais, c'est normal. Et en fait, la pêche n'est pas en soi une mauvaise activité. Ce qui était mauvais pour eux, c'était de retourner à leur ancienne vie. Si vous les aviez vus dans la barque, vous auriez vu des pêcheurs, vous n'auriez pas vu des pêcheurs, si vous me comprenez. Des gens qui se sont égarés loin du Seigneur. Mais en fait, ils sont loin de Dieu. Le Seigneur a dit dans sa parole, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Si le sarment demeure attaché au cep, il porte beaucoup de fruits. » Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et là, ben vous en avez une application. Il ne porte pas de fruits parce que les sarments ne sont plus attachés au cep. Ça nous arrive, cela. Mais ce qui est précieux dans ce passage, c'est la restauration que le Seigneur va accorder à son serviteur Pierre. J'aime ce verset dans la deuxième épître à Timothée où le Seigneur dit « Si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. » Et ce qui est précieux encore, c'est de voir que dans les Écritures, on apprend que c'est toujours le Seigneur qui fait le premier pas vis-à-vis de ses enfants. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et j'oserais dire que dans ce texte, ce qui est fabuleux, c'est que Pierre va encore voir qu'il peut être renouvelé dans son amour pour le Seigneur, parce que c'est toujours le Seigneur qui fait le premier pas pour renouveler le cœur de son enfant. Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et la chose, c'est que quand on n'est plus en communion avec lui, ben, on n'est plus sur le chemin, on n'est plus dans la vérité et on n'est plus dans la vie. Et on se sent même moribond. On est dans un chemin d'errance, on n'est plus dans la vérité parce qu'on se ment à soi-même et puis on se trouve des justifications, des excuses et toutes sortes de choses. On est dans le mensonge en fait. Hein, et puis on n'est plus dans la vie. On est avec un cœur moribond, comme je le disais. Alors, ce qui est appréciable, c'est que le Seigneur Jésus aime à venir au devant de ses disciples pour les restaurer, comme il aime à le faire avec ses enfants. Et vous le voyez là-bas sur le rivage, tandis que les disciples sont en train de pêcher. Mais on ne sait pas que c'est le Seigneur. Il vient, comme on dit, incognito. C'est, je crois, Albert Einstein qui disait « Le hasard, c'est quand Dieu se promène incognito. » J'aime cette phrase. Hein, c'est oh, « comment ça se fait que tiens, toutes sortes de choses se mettent en place ?» Le hasard, c'est Dieu qui ne montre pas son visage, mais qui dirige les choses. Et voilà que Jésus est là. Et c'est une personne qui s'intéresse à eux, qui semble les connaître, mais ils n'ont pas reconnu le Seigneur. Et que dit-il le Seigneur ici? Il leur dit, mais dites non, mais qu'est-ce que vous faites là-bas? Je vous attendais en Galilée. Qu'est-ce que vous faites là, quand je vous ai appelé à me servir? Est-ce qu'il est en train de les reprendre? Est-ce que j'ai passé 3 ans à vous supporter pour que maintenant vous retourniez à la pêche? Non, dites donc, vous avez 3 ans d'études avec moi pour tout ça? Non mais je suis quand même pas mort et ressuscité pour vous, comme ça, pour que vous retourniez une ancienne vie. Il n'est pas en train de les molester, les réprimander, les agresser d'une certaine manière, alors qu'il aurait toute raison de le faire. C'était une faillite. Non, rien de cela. Jésus leur pose des questions. Jésus leur dit, « Enfant, n'avez-vous rien à manger ?» Et ils lui répondirent, « Non. » c'est l'aveu. Comme si un frère venait au-devant de vous et vous disait « Alors, comment ça va ?» Et puis vous voyez, vous prenez cette question en pleine figure, « Eh ben, bon, ça va pas. » C'est l'aveu. Et le Seigneur ici leur pose cette question pour savoir si ça va. Est-ce que vous avez quelque chose à manger? Est-ce que vous avez... C'est fructueux votre vie en ce moment? Ben non. Non, pas du tout. C'est l'aveu, c'est le constat. Et puis on voit par la suite que Jésus leur montre comment ils font faire pour pouvoir trouver du fruit. Il les conseille. Et ce qui est touchant, c'est que il est comme un père qui s'approche de son enfant qui ne va pas bien et puis qui avant de lui dire tout ce qu'il a à faire pour marcher correctement, eh bien, il commence à s'intéresser à ses problèmes. Il vient l'aider dans son travail et puis tout d'un coup, ça fait chaud au cœur. Et le Seigneur ici s'intéresse finalement bien, aux activités de ses disciples. Il lui dit, écoute, si tu veux pêcher, si tu veux trouver du poisson, tu devrais peut-être faire jeter ton filet de l'autre côté, tu vas voir. Et c'est appréciable de voir comment le Seigneur s'intéresse à notre quotidien. Et finalement, dans des choses très concrètes, il nous donne de retrouver le chemin de l'obéissance. Tiens, ouais, mais on ne sait pas bien ce qui se passe. On est conseillé et puis on se laisse faire. Il nous montre finalement qu'il est en tout et partout la solution de notre vie. Dans ce texte, on voit même que le Seigneur, c'est lui qui met du succès dans des choses finalement profanes, et on sait finalement que cela vient de lui. Et c'est comme ça qu'il réchauffe notre cœur. Vous avez vu que même le Seigneur redonne à ses disciples le désir d'être auprès de lui. Jean finit par dire, c'est le Seigneur. Et pourquoi il le reconnaît? Et comment se fait-il qu'il le reconnaisse? Comment l'a-t-il reconnu de loin? Est-ce qu'il avait une meilleure vue? Non, en fait, c'est parce que c'est une œuvre de grâce qui fait reconnaître le Seigneur de grâce. Quand c'est la grâce, c'est le Seigneur. C'est là ce qui fait la distinction entre les hommes qui sont en train de dire « Oui, tu ne fais pas ce qu'il faut faire, et patati et patata. » Mais là, le Seigneur, il leur donne une formidable bénédiction alors qu'ils ne le méritent absolument pas. Incroyable. Une pêche miraculeuse. Quelque chose qui dépasse leur entendement. Si encore ils étaient au pied de la croix, si encore ils étaient en prière, si encore ils sortaient d'un moment de jeûne, d'une semaine de consécration, de que sais-je, ils étaient au summum de leur vie spirituelle, ils pourraient se dire, ouais, c'est normal, là, et tout. Mais là, rien du tout. Pas de prière. Pas de communion avec le Seigneur. Pas même le désir d'être en communion avec lui. Rien du tout. Et puis, le Seigneur leur offre sa grâce. Et c'est là qu'ils reconnaissent le Seigneur. Parce que le Seigneur, c'est la grâce. N'avez-vous jamais été confondu dans votre cœur quand vous voyez, vous mesurez que vous méritez rien dans votre vie? Et puis que tout d'un coup, votre cœur se porte vers lui et dit, « Oh Seigneur, je sais que je ne le mérite pas, mais... aplanis mes sentiers pour ces problèmes que j'ai en ce moment dans mon existence. Je sais que je suis loin de toi. » Et puis, vous voyez que Dieu, dans des choses concrètes, vous n'êtes pas dans cette marche spirituelle que vous avez connue autrefois, mais Dieu aplanit vos sentiers. Il vous donne ce que vous ne méritez pas. Oh, c'est bouleversant. C'est bouleversant. Et c'est là que tout d'un coup, Pierre ne résiste plus et il se jette à l'eau et il veut aller au devant de son Seigneur. Alors, une belle musique là, c'est pas grave, hein, c'est bien choisi quand même. Dans l'épître aux Corinthiens, il est écrit « L'amour de Christ nous presse. » L'amour de Christ nous presse. Et effectivement, ici, on voit que c'est l'amour de Christ qui presse ici son serviteur, Pierre, qui se jette à l'eau et qui veut aller au-devant de son Seigneur. J'aime ce verset dans le psaume 27 qui dit ceci: « Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face, je cherche ta face, ô Éternel. » Est-ce que c'est l'état de votre cœur ce matin qui dit « J'ai besoin de Christ dans ma vie. Je sens que Dieu me presse de me jeter à ses pieds, de revenir de tout mon cœur à lui. » Alors regardez la suite. Il se passe quelque chose d'étonnant, c'est qu'ils sortent, ils sont là sur le rivage. Et que fait Jésus ? Il les nourrit. Il les nourrit. Les disciples n'ont rien à faire, ils ont eu une pêche merveilleuse, miraculeuse. Ils ont travaillé toute la nuit, ils sont épuisés. Et là, ils sont sur le rivage et ils n'ont rien à faire. Le Seigneur les nourrit. Et cette nourriture, vous savez, c'est de prendre soin d'eux, encore une fois. Un petit peu, vous savez, comme le fils prodigue, quand il est revenu vers son père, bien son père l'a nourri de mille manières. Mais la nourriture dont ce fils avait besoin, c'était pas simplement un veau gras à manger, mais c'était de retrouver l'affection de son père. C'était sa nourriture. Retrouver cette sécurité qu'il avait perdue. Retrouver cette provision, cette joie, cette paix, la consolation, la pureté, la communion. Voilà, c'était ça sa nourriture. Et ici on voit que les disciples sont là, ils ne sont pas en train de dire « qui sait ?» Parce qu'ils savent, ça presse dans le cœur, c'est le Seigneur. Voilà, je suis devant Dieu, c'est Dieu qui presse mon cœur, c'est le Seigneur. Enfin, j'aimerais vous lire ce dernier texte que nous n'avons pas lu tout à l'heure, qui se trouve être à partir du verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu ? » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. » Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paix mes brebis. Et si vous voulez, ici, c'est un petit peu l'apothéose dans cette restauration avec le Seigneur. Oh, je ne vais pas m'étendre dans ce beau texte pour en dépeindre tous les aspects, mais ce qui est intéressant à retenir ici, c'est que Pierre, à cause de son péché, à cause j'oserais dire de sa suffisance, s'était profondément égaré et il avait ruiné toute perspective de ministère dans l'œuvre de Dieu. Il n'avait plus d'avenir dans l'œuvre de Dieu. Il était sur la touche. Et Jésus lui pose trois fois la même question, « M'aimes-tu ? » Et ce qui est touchant ici, c'est que Pierre répond avec des paroles de modestie, d'humilité, de modestie, tout simplement. Avant, il dit, ben oui, je suis prêt à aller jusqu'au bout avec toi. Mais là, il est rempli de modestie. Et c'est ça qui change tout. Il est brisé. Oui, tu sais que je t'aime. Mais je n'ai plus de prétention devant toi. Il a des paroles de modestie. Et du coup, le Seigneur a encore des paroles d'encouragement. Et par trois fois, il lui dit, « Paix mes agneaux, paix mes brebis, paix mes brebis. » C'est-à-dire, la plénitude de la restauration revient. Il y a encore une part pour toi. J'ai prié pour toi. Même le Seigneur avait dit au sujet de Pierre, afin qu'il puisse se relever et être à nouveau cet homme que Dieu veut qu'il soit dans le service de sa maison. Le Seigneur lui dira à nouveau au verset 19, « Suis-moi ». Et ce « suis-moi » n'aura plus le même écho que le premier « suis-moi » que le Seigneur lui avait dit. Hein. Vous savez, quand il était venu le chercher sur les bords, même endroit, sur les bords de la mer de Galilée, et il avait dit « suivez-moi, je vous ferai pêcheur d'hommes ». Et voilà, une grande ambition, une grande vie. C'était le commencement d'une grande découverte du Messie. Mais là, c'est autre chose. C'est « je peux encore le suivre, Dieu peut encore m'utiliser ». Et plus encore, il m'utilisera abondamment parce que maintenant je suis un instrument brisé pour pouvoir le servir efficacement. Alors il est un appel que vous avez peut-être entendu, qui était celui de venir à Christ dans votre vie. Mais il est peut-être un appel que vous avez besoin d'entendre ce matin, c'est celui de revenir à Christ. Et peut-être avec des paroles de modestie, lui dire « Oui Seigneur, je t'aime ». Et le Seigneur te dit « Eh bien viens et suis-moi, j'ai encore quelque chose pour toi ». Livre ton cœur, renonce, viens. Il a encore des projets de paix et il ne se lasse jamais dans sa grâce. Il est écrit que même il nous a acquis pour célébrer la gloire de sa grâce, qu'il veut manifester continuellement dans notre vie. Alors ce matin, s'il y a une errance dans votre cœur, s'il y a un fil qui est coupé avec le Seigneur, revenez à Christ. Le Seigneur ne se lasse pas de vouloir vous bénir et vouloir vous renouveler dans le service de sa maison. Amen.